Bon, Éric Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bon, c'est pas très facile la communication, mais il faut dire que c'est loin, hein. T'es à Liège, là. C'est la Belgique, là.
Oh là là, oui.
Évidemment, t'es confiné.
Oui, tout à fait.
Comment ça se passe un peu? Dis-moi comment ça se passe en Belgique, qu'on essaye de comprendre si c'est très différent de chez nous.
Ce n'est pas très différent. On a un gouvernement qui s'est fait donner les pouvoirs spéciaux. Mmh. Il y a à peu près les mêmes mesures, peut-être un peu moins strictes pour l'activité de sortie des gens pour des activités sportives.
Ouais.
Mais pour le reste, on est confronté à une situation certainement comparable à beaucoup de pays, c'est-à-dire un service de santé qui a subi très fortement les politiques néolibérales, sous pression de lits, etc. Mmh. Ici, pour des raisons budgétaires, le stock de 200 000 masques a été détruit en début d'année parce qu'ils étaient périmés et la ministre de la Santé n'a pas considéré qu'il était nécessaire de faire remplacer le stock. Uh-huh. Donc, la situation est tout à fait préoccupante. Maintenant, uh-huh, le nombre de décès proportionnellement à la France est inférieur. Uh-huh. Est-ce que c'est parce qu'on est à un autre stade de la pandémie ici en Belgique? Est-ce qu'on est un peu en retard sur la France? Uh-huh. Et évidemment sur l'Italie et l'Espagne? Ou est-ce qu'on a la chance d'avoir un taux de contamination plus faible? On le saura dans quelques jours.
Est-ce que vous pratiquez des tests?
Alors, la Belgique n'a pas suffisamment de tests, très très peu de tests. Mm-hmm. Et donc, non, ce n'est pas ça l'explication qui permettrait de dire qu'on a beaucoup moins de décès pour le moment.
Bon, Éric, parlons de ce qui te préoccupe et de ce qui préoccupe le CRDTM, dont tu es le porte-parole. C'est le comité pour l'annulation de la dette illégitime maintenant. Hein.
Voilà, c'est le comité pour l'abolition des dettes illégitimes.
Des dettes illégitimes.
Et figure-toi, Daniel, que nous fêtons nos 30 ans, tout comme la base illégitime.
Ah, mais oui.
Le CRDTM a été créé en mars 1990. Ça fait 30 ans et 15 jours que le CRDTM a été créé.
Il n'a pas flanché, il est toujours debout, mais c'est un autre homme qui est apparu. Voici l'émission politique avec François Fillon.
Bonjour Monsieur Fillon. Alors vous êtes ici dans une maison de retraite publique et médicalisée. Nous allons y rencontrer des médecins, des aides-soignants, des infirmières. On y va, si vous voulez bien.
Bonjour, je suis désolé, je suis en retard. Bonjour.
Ce sont des aides-soignants, des infirmières, qui sont essentiellement au syndicat CGT. Est-ce que vous avez spontanément quelque chose à dire à M. Fillon?
Vous voulez augmenter le temps de travail à 39 heures. Vous vous imaginez la pénibilité de notre travail?
Est-ce que je peux vous donner un peu, quand même, quelques éléments d'explication?
Je vous écoute, allez-y.
Il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile. Si on veut que les fonctionnaires, les employés du secteur public aient des augmentations de salaire, dans un contexte financier comme celui-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de proposer une augmentation du temps de travail.
39 heures, on les fait déjà. On récupère les RTT.
Eh ben, il faut qu'elle soit payée.
Mais nous, on a besoin de notre RTT pour reposer. Parce que l'épuisement professionnel, il arrive aussi.
On est deux. Deux pour 84 la nuit. Il faut répondre au téléphone, il faut répondre aux sonnettes. On fait les soins jusqu'à avoir 3 heures du matin.
Vous dites que vous ne pouvez pas faire 39 heures hebdomadaires?
Non, c'est pas possible.
L'épuisement,
déjà en travaillant de nuit.
Je pense simplement que partout autour de nous, on est à 39 heures.
Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains.
Mais il faut le payer, madame.
Mais oui. Donc on attend de votre part, il faut...
Que je fasse de la dette supplémentaire.
Pas de dette.
Bah oui, mais si, c'est ça aujourd'hui.
Pas de dette, nous...
Cet argument de la dette, ça a beaucoup servi. Ça a servi très très longtemps chez nous à dire, bah oui, s'il y a des dettes, il est normal qu'on ait des politiques d'austérité, quoi.
Absolument. En fait, on a appliqué les mêmes recettes. Mmh. Donc, on a dégradé la qualité du système de santé au sud et au nord de la planète. Et maintenant, il faut être très attentif à ce qui est dit aujourd'hui par Emmanuel Macron, par la présidente de la Banque Centrale Européenne, et qui nous disent « Ah, pour faire face à la crise maintenant, c'est tout à fait normal d'augmenter les dettes. Mmh. Parce que il va falloir dépenser de l'argent pour aider et les gens qui en ont besoin et les entreprises. Et eux, ils pensent évidemment à essentiellement les très grandes entreprises et notamment les grandes banques qui vont recevoir des cadeaux absolument astronomiques. Ça va se compter par centaines de milliards. Là, je parle au niveau européen. Et ça va augmenter les dettes des États européens de dizaines de milliards, voire de 100, 150 milliards assez rapidement. Or, nous, ce que nous voulons, je pense que ce que nous devons dire, c'est que plutôt que de s'endetter allègrement, il faut commencer par suspendre le paiement de la dette, y compris dans un pays comme la France ou la Belgique. Il faut réorienter le budget en réduisant donc le service de la dette radicalement et en récupérant des moyens financiers à réinvestir directement dans le combat contre la pandémie. Et puis, effectivement, il faudra quand même recourir à de nouvelles dettes, mais alors là, il faut déterminer ce que, comme citoyens et citoyennes, on considère comme légitime, comme dépense légitime.
Oui.
Est-ce qu'on est d'accord, une fois de plus, donner de l'argent à Natixi, à BNP Paribas, à la Société Générale, au Crédit Agricole et aux grandes entreprises du CAC 40 qui ont distribué des dividendes à l'appel toutes ces dernières années? Ou bien est-ce qu'il faut privilégier les dépenses, effectivement, dans la santé, réquisitionner des entreprises pour leur faire produire des respirateurs, des ventilateurs pour la respiration, et donc entamer une série de dépenses de cette manière-là, mais qui sont alors, dans ce cas-là, justifiées.
Vous avez publié un texte en décembre 2018, suite à l'apparition, au soulèvement des Gilets jaunes. C'est un long texte qui s'intitule « Gilets jaunes, apprendre de l'histoire et agir dans le présent », auquel je renvoie nos AMG, ceux qui nous écoutent. Mais il y a des... Alors, c'est long, hein. C'est long, mais c'est très, très détaillé. C'est un vrai programme. C'est un vrai projet qui mérite d'être discuté. Et notamment, vous indiquez dans ce projet la place que pourraient avoir les banques. C'est-à-dire que les banques repassent sous le contrôle public.
Absolument. Nous sommes pour une socialisation complète des banques. Il faut pour nous exproprier les grands actionnaires des grandes banques actuelles et transférer ces banques dans le domaine public et en faire un service public. Donc, ça implique de définir entre citoyens et citoyennes quelles sont les missions d'un nouveau service public de l'épargne, du crédit et de l'investissement. Ça implique qu'on fonctionnerait avec des petites unités du service public qui seraient présents à tous les niveaux, y compris dans les petites communes, et qu'on pourrait y déposer l'épargne des habitants et financer des projets locaux. Et le tout en contrôlant les comptes de ces unités de crédit et d'épargne du service public avec un contrôle citoyen des élus locaux, des gens des quartiers ou des communes. On est donc pour dégonfler totalement le secteur monstrueux des grandes banques.
Vous
savez que dans le bilan d'une banque aujourd'hui, les dépôts des clients et les crédits qui leur sont octroyés, c'est environ 20% du bilan de la banque. 80%, c'est des activités spéculatives, souvent très dangereuses et qui peuvent avoir des effets très négatifs pour l'ensemble de la société. Et donc, il faut dégonfler complètement le bilan des banques et ramener une taille raisonnable le système bancaire dans chaque pays. Mais c'est ce que nous appelons la socialisation des banques. On préfère cela au terme nationalisation parce que dans le terme socialisation, il y a bien la société. Et il y a l'idée que la société doit pouvoir exercer un contrôle direct et donc ne pas déléguer à l'État, qui est une structure abstraite et souvent dirigée par la classe politique ou l'élite politique.
Oui.
Et donc on veut mettre le système bancaire socialisé à la hauteur des citoyens et des citoyennes et à leur service.
Oui, parce que dans la nationalisation, ça rappelle des moments où on dit « Ah, mais c'était bien la nationalisation !» Ça rappelle d'autres époques. Mais en fait, dans la nationalisation que propose certains dans notre gouvernement, ou bien le MEDEF, les grands patrons, proposent la nationalisation. Mais ça reviendrait, ça reviendra ou ça reviendrait à partager les pertes. Hein,
parce que, absolument.
C'est-à-dire qu'à la fin, c'est nous qu'on va payer.
Bien sûr, parce que quand vous faites les nationalisations auxquelles rêvent certains membres de gouvernement et des patrons d'entreprise qui voient que leur entreprise va mal, il y a peut-être d'être nationalisé, c'est-à-dire qu'on leur rachète au prix fort leurs actions. Mmh. Donc que l'État rachète aux grands actionnaires les actions, peut-être même en leur donnant une prime au-dessus de la valeur actuelle des actions qui sont écrasées en bourse. Mmh. Et évidemment de mettre sur le dos du trésor public, et donc des contribuables qui payent des impôts pour alimenter ce trésor public, indemniser les actionnaires. Tandis que nous parlons d'expropriation sans indemnité des grands actionnaires.
Ouais.
Sans pour que les petits actionnaires soient indemnisés, qu'on leur rembourse leurs actions.
Ouais.
Les petits actionnaires, ça représente un pourcentage très minoritaire des entreprises, mm-hmm. parce que il n'y a pas de capitalisme populaire, ni en France, ni en Belgique, ni même au pays de Margaret Thatcher. La population française ou belge ou britannique a très très peu d'actions. Les actions des grandes entreprises appartiennent à des grandes familles et des grands fonds d'investissement. Et donc eux, pour nous, il n'est pas question de les indemniser, il faut les exproprier purement et simplement sans indemnité.
C'est différent aux États-Unis, hein ? C'est différent aux États-Unis, il y a un capitalisme populaire plus répandu aux États-Unis, non ?
À peine, okay. Il y a un mythe qui a été créé là-dessus. Ce qu'il y a, Daniel, c'est que comme on a déjà privatisé une partie des pensions, mm-hmm. du système des retraites, les travailleurs sont obligés de cotiser à un fonds de pension privé, mm-hmm. qui investit leur épargne en bourse.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle le système de pension 401k, qui était créé il y a tout Reagan. Mm-hmm. Mais ce système-là, on prend plein la figure maintenant, puisque les bourses se sont effondrées,
voilà.
De 25 à 35% tout autour de la planète. Moi, j'appelle pas ça du capitalisme populaire, Daniel, parce que c'est pas du tout les travailleurs qui gèrent leur épargne qui va en bourse. Leur épargne est une épargne obligatoire dans le cadre d'un système de pension privatisé, et ce sont des managers payés à des salaires très élevés qui gèrent cette épargne. Il investit dans la bourse et ça produit des résultats catastrophiques aujourd'hui.
Oui, mais là, en ce moment, on a déjà presque oublié en France le, entre guillemets, débat sur les retraites qui vise, qu'on le veuille ou non, à privatiser les systèmes des retraites et aller vers des retraites par points. Si c'était appliqué, si cette réforme passe, Les pensionnés français, les retraités français, verraient leur retraite s'effondrer en ce moment.
Bien sûr.
Ouais.
Il est très clair que ce à quoi mènent les réformes voulues par Emmanuel Macron, c'est un système où les retraites par répartition occuperaient une place de moins en moins importante et où la partie système de retraite par capitalisation augmenterait. Et ben, quand la bourse va bien, donc par exemple, Trump a fait miroiter auprès de ses électeurs que tout allait très bien et qu'il fallait le réélire parce que les bourses, jusqu'au mois de février, continuaient à grimper. Mmh. Et quand ça a commencé à dégringoler, eh bien, Trump a commencé à sentir que ça allait poser des problèmes, sa réélection au mois de novembre. Les élections ont lieu au mois de novembre, si le calendrier n'est pas modifié avec la pandémie du coronavirus.
Alors, on voit un peu partout, dans ceux qui sont comme toi, dans l'opposition depuis longtemps, beaucoup disent, bon, il faut se préparer à après, hein, il faut voir qu'est-ce qu'on va faire après. Et puis, il y a ceux qui disent, non, attendez les amis, le après, c'est maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça ? Que dit le CRDTM ?
Le après, c'est maintenant qu'il faut agir.
Voilà, le après, c'est maintenant.
Ah oui, bien sûr.
Alors, il faut agir, dis-moi quoi ? Dis-moi quoi et comment, de manière un peu plus concrète.
Il y a d'abord l'autodéfense, je dirais, par rapport à la pandémie.
Ouais.
Et par rapport, si on est travailleur dans des entreprises non essentielles, ben, il faut obtenir la fermeture et l'arrêt de l'activité, parce que c'est absolument pas normal que des patrons exigent de travailleurs de continuer à se rassembler sur un lieu de travail où les activités ne sont pas essentielles. Il faut obtenir la réquisition de structures qui permettent de fabriquer ce dont on a besoin, donc des appareils de respiration, des masques, évidemment. Il faut réquisitionner des infrastructures privés, des hôtels pour augmenter le nombre de lits disponibles et évidemment, notamment pour toutes les personnes qui sont en domicile fixe et qu'il faut un peu héberger dans de bonnes conditions en toute urgence. Et tout ça, il y a toute une série de mesures extrêmement importantes. Et puis, il faut justement se mobiliser pour dire pourquoi la bourse doit-elle continuer de fonctionner ? Fermons la bourse. Deuxièmement, les banques, au lieu de les sauver une nouvelle fois comme elles ont été sauvées après 2008, il faut les socialiser. Les entreprises pharmaceutiques, le Big Pharma devrait être lui aussi socialisé. Les grandes entreprises comme Novartis, comme Roche et autres devraient être mis au service de l'intérêt général. Et donc on devrait réorganiser la recherche dans ces entreprises pharmaceutiques et le type de molécules qu'elles produisent. Et donc ça, ça demande une bataille extrêmement forte pour des changements fondamentaux. C'est l'occasion de se dire, on voit avec les mesures de confinement et de réduction de l'activité qu'il y a une baisse absolument évidente de la pollution atmosphérique. Mais ça montre qu'il faut arrêter de fonctionner de manière frénétique comme on fonctionne normalement, que cette question de mobilité soit totalement revue. Ça implique qu'il faut relocaliser, qu'il faut recréer des circuits courts. Certains le font déjà, des associations en font la promotion, etc. Mais il faut l'organiser à l'échelle de la société. Il faut limiter à fond les déplacements, les distances entre producteurs et consommateurs. Et donc tout ça est à la fois absolument nécessaire. Les premières mesures dont j'ai parlé pour combattre tout de suite la pandémie du coronavirus, et les autres mesures, parce que faut pas oublier qu'il y a 2 mois, on était confronté à l'urgence climatique. C'est passé complètement hors des esprits parce qu'il y a un matraquage total sur. On ne parle que coronavirus et on ne parle pas des autres problèmes auxquels la planète est confrontée. Mais nous, il faut pas qu'on nous fasse oublier tous les problèmes qu'il faut résoudre. Et on ne pourra pas attendre d'être revenu à une situation normale. Nous ne voulons pas revenir à une situation normale. La situation normale, c'est celle qui a produit les conditions de l'extension de la pandémie.
C'est ça.
Des déplacements en avion complètement démentiels qui font qu'à partir d'un seul foyer dans une partie de la Chine, le virus du corona s'est répandu partout autour de la planète. Et donc, il faut revoir tout ça.
Espérons. Il a fallu la Deuxième Guerre mondiale pour voir un certain nombre d'avancées sociales importantes dans certains pays, dont le nôtre, la France. Je pense à la sécurité sociale et à d'autres choses comme ça. Il se pourrait que de ce malheur, de cette catastrophe, on soit capable de tirer ce genre d'enseignement et ce genre de progrès, mais ce n'est pas du tout gagné. Il y a vraiment une lutte importante entre ceux qui veulent que ce soit as usual, revenir à la situation précédente. Ils ont déjà chez nous pris des mesures avec les mesures d'urgence sanitaires qui sont une atteinte terrible au droit du travail, au code du travail, de façon à ce que les choses redeviennent normales. Toi, c'est le retour à la normale. Tu te souviens de ce dessin de 68 avec les moutons, retour à la normale. C'est un grand risque, mais il y a aussi la chance, l'opportunité tout à fait unique et rare de certains progrès, sachant que évidemment, des gens comme toi et moi, on est là-dedans, tu le disais, on est là-dedans depuis 30 ans, quotidiennement, etc. Mais là, cette fois, c'est tout le monde qui est touché dans sa plus grande intimité. Et là, il n'y a pas plus... C'est nos enfants, moi, pour ce qui me concerne, c'est mes petits-enfants, etc. qui sont... On est tous concernés, là. On est tous dans cette situation.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il me semble en tout cas qu'une grande partie de la population qui exprimait déjà de la sympathie très clairement pour les urgentistes et tout ça.
Oui.
Maintenant, ils sont absolument convaincus que ce que les urgentistes disaient, que tout ce que le personnel de santé en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe, hein, en Belgique, le personnel de santé luttait un peu à la manière du personnel de santé de la France.
Oui.
Et donc, ils n'étaient pas écoutés par les gouvernants. Maintenant, c'est ça extrêmement difficile pour les gouvernants de défendre l'idée qu'il ne faut pas investir massivement dans la santé. Mmh. Les gens vont comprendre que leur survie est en jeu.
Ouais.
Les gens vont comprendre que si on passe le cap de cette pandémie sans des effets hyper dramatiques, parce qu'ils sont, déjà catastrophiques et dramatiques, les gens sauront que ce type de pandémie est amené à revenir. On sait que ce type de maladie va revenir, et donc il faut un système de santé qui soit vraiment très solide. Mais au-delà, je pense que les gens peuvent constater les difficultés qu'implique certainement le confinement, mais aussi ils sont pas sourds, c'est-à-dire qu'ils entendent, s'ils habitent à proximité de parcs, etc., ils réentendent pour ce qu'ils n'entendaient pas depuis longtemps, des oiseaux, ils réentendent toute une série de choses autour d'eux.
Oui.
Qu'on n'entendait plus tellement c'était couvert par un bruit sourd provoqué par le fonctionnement irrationnel, exubérant de notre système de consommation. Donc il y a certaines prises de conscience qui devraient, si les mouvements sociaux, les forces politiques de gauche viennent avec un programme bien solide sur la base de ce qui est en train de se passer, avoir beaucoup plus d'écho que ce qu'il y avait avant. Et ceux qui défendaient des strictes politiques de repli et avec des aspects racistes perdront du terrain.
Ok, Eric, merci pour tout ça. Porte-toi bien et protège les tiens aussi. Salut, Eric.
Ouais.
Ciao.
Toi aussi, à bientôt.